Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. C'est peu de le dire, les dernières semaines qui viennent de s'écouler ont été difficiles pour la diplomatie française. On va citer deux coups durs. D'abord, mi-septembre, l'annonce par l'Australie de l'annulation de celui qui avait été surnommé le contrat du siècle, l'achat de sous-marins à la France, Canberra préférant se tourner vers une alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et puis ces derniers jours, le Mali, allié indéfectible de la France, qui a reconnu mener actuellement des discussions avec le groupe paramilitaire russe Wagner pour assurer sa sécurité. Alors, quels enseignements faut-il tirer de ces deux situations ? Est-ce que la France a perdu de son poids diplomatique au profit d'autres acteurs ? Où se situe-t-elle aujourd'hui ? Comment se repositionner ? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, ce soir, en studio, à mes côtés, Michel Duclos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et auteur du livre « La France dans le bouleversement du monde » qui sortira le 13 octobre prochain. Face à vous, Maxime Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Diplomate, ancien ambassadeur, professeur à l'ESCP Business School, auteur du « Que sais-je ?», la politique étrangère de la France. Et Christian Lequen, à vos côtés, bonsoir. Christian Lequen, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de diplomatie. Et je vais citer l'un de vos ouvrages, « La puissance par l'image », c'est le dernier paru. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Première question, je vous la pose à vous, Maxime Lefebvre, qui avait rédigé justement « La politique étrangère de la France ». Comment est-ce que vous définiriez les atouts diplomatiques aujourd'hui de la France ?
Je pense qu'il repose d'abord sur le fait qu'on est une puissance militaire, et c'est très important dans l'histoire de France et encore aujourd'hui dans notre action diplomatique. Deuxièmement, un rayonnement mondial, le fait que la France est toujours conçue comme étant une puissance mondiale, par-delà les mers, et qui a encore aujourd'hui le deuxième espace maritime mondial. Troisièmement, c'est quand même encore la cinquième économie du monde, à peu près à égalité avec l'Inde ou avec le Royaume-Uni. Quatrièmement, un rayonnement culturel, le rayonnement de la langue française, mais plus généralement l'image de notre pays. Et puis le dernier élément, c'est une tradition d'un État fort qui est caractéristique aussi d'une volonté politique. Et ça, c'est quelque chose qui, là aussi, est très caractéristique dans la construction de l'État-nation et encore aujourd'hui dans notre action diplomatique.
Michel Duclos, est-ce que vous partagez ce constat de la diplomatie française aujourd'hui, tel qu'il vient d'être proposé par Maxime Lefebvre ?
Oui, je le partage. J'ajouterais peut-être un corps diplomatique et une caste de hauts fonctionnaires.
C'est l'ancien ambassadeur qui
parle. Partie de l'État.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas ?
C'est coté à l'étranger, si ce n'est en France même. Et puis, j'ajouterais que c'est vrai qu'en même temps, cette France, avec tous les atouts qu'on vient de décrire, souffre de handicap, et notamment un modèle économique, social, qui fait moins rêver qu'avant, puisque elle peine à maintenir le train de la croissance. Elle n'est plus aussi performante sur le plan des technologies de pointe. L'intégration de sa société laisse à désirer. Il y a quand même, en termes d'image, un certain nombre de choses qui commencent à clocher.
Uniquement en termes d'image ?
Non, qui sont des problèmes de fond, mais qui, en termes diplomatiques, se traduisent par un déficit d'image. Et puis, tout simplement, le monde est devenu beaucoup plus compétitif. Et donc, pour un pays de la taille de la France, alors on ne dira pas puissance moyenne, parce que ça, c'est controversé, mais enfin, un pays qui a le pedigree, la dimension, le poids de la France, c'est devenu tout simplement plus difficile parce qu'il y a plus de concurrents. Il y a les pays émergents, il y a les anciens empires résurgents. Il y a un monde beaucoup plus difficile.
Christian Lequen, est-ce que justement ces handicaps, ils sont de plus en plus importants dans l'histoire diplomatique française ? Alors je ne sais pas, par exemple, je vais citer, on ne va pas rentrer dans la politique, hein, mais par exemple sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu les difficultés d'évacuation concernant l'Afghanistan. Il y a eu le Mali, j'ai cité, avec les dirigeants maliens qui sont en train de se tourner vers un groupe paramilitaire russe, Wagner, pour assurer sa sécurité parce qu'il y a progressivement le retrait des forces Barkhane. Il y a eu évidemment le camouflet de l'Australie avec le contrat du siècle, l'Australie qui s'est tournée vers une alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni que j'évoquais.
Écoutez, non, je pense pas que les handicaps soient tout à fait nouveaux.
points qui ont été soulevés par Michel Duclos sont quand même des points structurels qui ont quelques décennies. Je crois que la question du modèle économique de la France est absolument fondamentale. C'est-à-dire on se rend compte aujourd'hui que la puissance passe aussi par la diffusion d'un modèle économique et social. Et ce modèle économique et social a du mal à être crédible quand même dans pas mal de régions du monde, y compris en Europe d'ailleurs. Hein. C'est un des problèmes de la France. On a quand même une ambition stratégique qui est importante en matière de sécurité, mais on n'arrive pas quand même à avoir le leadership à cause de ce déficit de notre modèle économique et social. Quant au point que vous soulevez, bon, bah écoutez, d'abord, ce sont des points de nature assez différentes. Le Mali, c'est la France qui se retire, et ensuite, c'est un peu le jeu. On a un premier ministre malien qui annonce qu'un groupe paramilitaire va prendre le relais dans le but d'envoyer un message à la France, si disons les choses très très clairement. Mais enfin, c'est vrai que on a, comme pour l'Afghanistan d'ailleurs, un sentiment un peu de gâchis, puisque quand même eu un investissement très fort de la France pendant des années, et aujourd'hui ce retrait, on peut se demander pourquoi, hein, pourquoi on a fait tout ça. Quant au Mali, quant à l'Afghanistan, là je dirais que c'est pas simplement une question qui touche la France, c'est une question qui a touché l'ensemble des pays européens. On a quand même été pris de court par la stratégie américaine, y compris les Britanniques. Je vous renvoie aux grands débats qui ont eu lieu à Londres sur le retrait de Kaboul. Voilà. Pour ce qui est de l'Australie, bon, là, je pense que c'est lié à la stratégie militaire et aux choix qui ont été faits fondamentalement sur le plan militaire par les États-Unis à l'égard de sa politique de containment de la Chine. Qu'on ait été surpris. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on ait été surpris à ce point. Enfin, je veux dire, j'ai envie de. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais on a quand même des services de renseignement.
Après, j'aimerais bien qu'on réagisse à ce que vous disiez, mais effectivement, on va s'arrêter sur ce qui s'est passé en Indo-Pacifique. Qui souhaite réagir, Michel Duclos?
Les trois cas que vous citez sont de nature très différente.
Bien sûr, ça en commun.
Oui.
Non, un revers de la diplomatie française, ou en tout cas une manière où la diplomatie française ne s'est pas illustrée.
Je ne dirais pas ça, parce que pour Kaboul, le fait que nous soyons retirés d'Afghanistan en 2014 montre bien qu'on avait anticipé que ce serait difficile.
Mais la France n'a pas été consultée comme elle aurait souhaité par les États-Unis. Mais effectivement,
nous n'avions plus de troupes sur place. Et notre ambassadeur a fait en sorte de rapatrier les Français et les Afghans qui travaillaient pour nous avant le désastre. C'est pas mal, on peut pas dire que ce soit un échec de la diplomatie française. Sur le Mali, le jeu n'est pas fait. On va voir ce qui va se passer. Je trouve que sur le Mali, l'un des succès de la France, c'est d'avoir réussi, contrairement à ce qu'on dit souvent, à mobiliser pas mal d'acteurs de la communauté internationale à nos côtés. On dit toujours les Européens ne sont pas suffisamment là, etc. Mais enfin, compte tenu du fait que pour beaucoup d'Européens, ce n'est pas central, on a quand même réussi à avoir avec nous pas mal de pays européens, plus l'Union européenne, plus les États-Unis et puis surtout les acteurs de la région. Et donc, je crois que le jeu n'est pas terminé. Maintenant, arrivons au Pacifique. Là, je crois que ça illustre très bien les forces et les faiblesses de notre pays dans le monde actuel. Les forces, parce qu'après tout, il n'y a pas tellement de pays qui sont capables de se projeter aussi loin, principalement par des contrats d'armement, effectivement, ça ne suit pas sur le plan économique, technologique, etc., et aussi par une présence militaire. Donc ça, c'est le côté force. La faiblesse, c'est que quand vous vous projetez, vous vous exposez à des revers. Et là, c'est vrai que nous n'avons pas suffisamment vu venir, c'est surtout ça qui montre une faiblesse de notre système, ce qui est une trahison inattendue de la part d'alliés qui se veulent particulièrement proches. Et là, ça pose...
Au sein d'une même alliance, qui est l'OTAN.
Ça pose l'OTAN, à vrai dire, pas tellement. L'OTAN n'est pas tellement concerné par cette affaire. De même,
il y a les États-Unis.
Oui, il y a les États-Unis, mais ça ne fait pas partie de la Charte atlantique, comme l'a dit le président de la République lui-même dans d'autres circonstances.
Donc, l'OTAN est dégratignée.
Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est un cas limite. Et de surcroît, je ne suis pas sûr qu'on s'en tire si mal. Car en réalité, ce à quoi on assiste actuellement, c'est un grand rebond d'une relation franco-américaine qui était à la peine depuis l'élection de Biden. Nous avions un peu perdu le fil du contact avec les États-Unis. Là, soudain, les Américains découvrent que finalement, la France, c'est quand même pas si négligeable.
Donc, vous là parlez aussi, de rebond ?
Là aussi, le sort n'est pas... La question n'est pas réglée, puisqu'on va voir ce qui va se passer avec la visite de M. Blinken.
Demain,
ensuite,
à Paris.
Le président va voir... Monsieur Biden avant la fin du mois. Donc, il va encore se passer pas mal de choses. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire que ce soit exclusivement un échec.
Alors, à vous écouter, on a l'impression que la diplomatie française, tout marche parfaitement. Je ne me fais pas le porte-parole parce que je suis journaliste des Échos de la Presse, mais ça a été vécu comme un revers, ces trois cas que j'ai cités, entre évidemment l'Afghanistan, l'Indo-Pacifique. Ce sont des exemples, évidemment, et le Mali. Maxime Lefebvre, vous en pensez quoi ?
Dans le cas de l'Afghanistan, je suis tout à fait d'accord avec Michel. C'est vrai que on ne peut pas considérer que c'est un échec français. C'est un échec occidental ou un échec américain, mais ce n'est pas d'abord un échec français. Dans le cas du Mali, il faudra voir. La présence internationale ne se retire pas. On garde toujours des moyens d'action. On a réussi à engager des Européens à travers une force européenne de forces spéciales qui s'appelle Takuba. Donc, c'était pas gagné, tout ça. Donc, faudra voir. Sur l'Australie, on redécouvre une espèce de configuration qui existait déjà du temps de la guerre froide, avec l'ANZUS, par exemple, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, qui a été créé en 1951. N'oublions pas que la chef d'État de l'Australie, c'est la reine d'Angleterre. Il y a une communauté spécifique anglo-saxonne qu'on appelle les Five Eyes, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Donc c'est bon, voilà, on n'est pas aux premières loges de ce monde-là. Donc on a cherché à vendre des sous-marins, on a voulu faire un partenariat stratégique. Bon, ça marche pas. On a d'autres atouts,
pardon,
on a d'autres cercles.
Il y a un mot que vous n'avez pas encore cité, vous trois, depuis le début de ce débat, c'est la Chine. Oui. Est-ce que c'est pas aussi une des raisons de ces désaveux? Enfin, en tout cas, concernant le Indo-Pacifique.
Dans le cas de l'Australie, oui. C'est-à-dire que l'Australie, clairement, elle se met sous la protection des États-Unis face à la Chine. C'est sûr.
Voilà.
C'est sûr. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est l'Australie.
Christian Lequen.
Je ne sais pas si c'est l'Australie qui se met sous la protection des États-Unis, ou si c'est les États-Unis qui essaient de mobiliser justement l'Australie parce qu'elles considèrent que c'est une tête de pont nécessaire dans le cadre d'une stratégie militaire globale que les États-Unis sont en train de définir à l'égard de la Chine. C'est-à-dire que clairement, il y a un message qui est envoyé dans cette affaire à Pékin, et je pense que Pékin a pigé le message. Et notamment après toutes les déclarations très provocantes sur Taïwan, etc., je pense que le message est clair. Mais évidemment, dans cette stratégie militaire, ce que souhaitent les États-Unis, c'est que les alliés occidentaux soient des partenaires qui s'alignent et non pas des partenaires qui revendiquent une forme d'autonomie dans la zone Indo-Pacifique. Or, la prétention de la France, c'est d'avoir... à côté de son allié,
une troisième voie.
Et c'est ça qui ne marche pas, finalement. Oui. Voilà.
Michel Duclos, c'est très important cette zone Indo-Pacifique. Pour nos auditeurs, c'est 60% du PIB aujourd'hui mondial.
Non, mais c'est tout à fait capital. Et en France, vous savez, il y a souvent eu un débat, des gens qui pensaient c'est beaucoup trop loin, ça nous dépasse, il ne faut surtout pas s'en mêler. Mais au contraire, je crois que compte tenu du fait que c'est un des endroits qui tirent la croissance mondiale, ce serait absurde de ne pas y être, outre que nous avons des intérêts, évidemment, comme puissance indo-pacifique. Mais pour en revenir à ce que disait Christian, pour moi, c'est une leçon capitale de cette affaire. C'est que nous avons du mal, nous Français, à comprendre qu'un nouveau contexte de guerre froide est en train de se créer. Parce que c'est vrai que l'armée de libération chinoise nationale n'est pas à deux étapes du Tour de France, comme l'était l'armée rouge, selon la formule du général de Gaulle, à l'époque de la guerre froide que nous avons connue avec l'URSS. Mais pour un pays comme l'Australie, il le perçoit comme pouvaient le percevoir les États européens dans les années 40-50. Pour les Australiens, c'est la Chine. Et pour les Européens, c'était l'URSS. Donc c'est ça que, effectivement, les Français ont un peu de mal à visualiser. Et pour moi, pour dire les choses très simplement, je crois qu'être porteur d'un projet de troisième voie ou de détente dans l'Indo-Pacifique aujourd'hui, c'est voué à l'échec. Et ça ne nous rapportera pas d'amis et pas de clients.
Et les Français ont du mal aussi à comprendre que l'Union européenne est en retrait un peu de tout ça, et avec elle la France ? Puisque là, on parle d'un affrontement États-Unis-Chine.
Oui, mais l'Union européenne, enfin les instances européennes ont défini à l'égard de la Chine, vous savez, avec la formule qui est devenue maintenant une sorte de mantra, de rival systémique, de partenaire et de compétiteur, une ligne qui est relativement claire et qui doit être possible de conjuguer avec nos alliés. Qu'il y aura toujours une signature européenne, il y aura toujours une différence de tonalité européenne, mais c'est pas du tout inconciliable avec une coordination d'ensemble de ce qu'il faut appeler tout simplement le camp occidental.
Est-ce que vous avez l'impression que cette voix de l'Europe, et donc encore une fois à travers là, cette voix de la France, est encore entendue aujourd'hui, Maxim Lefebvre ?
Il y aura une stratégie indo-pacifique qui a déjà été soumise, proposée par la Commission, par le haut représentant, donc qui sera adoptée le mois prochain. Il y aura un grand événement sous la présidence française de l'Union européenne, une réunion ministérielle sur les sujets indo-pacifiques. Donc il y a une volonté de l'Europe.
Pas uniquement sur l'indo-pacifique, au-delà de ça, moi je pense à l'échelle mondiale, la voix de l'Europe, la voix de la France.
Bah, si vous voulez, l'Europe, on est dans le camp occidental, comme dit Michel Duclos. On a un article de défense collective qui est articulé avec l'OTAN. On explique que c'est l'OTAN qui assure la défense collective de l'Europe. Donc on est dans cette alliance. Et en même temps, on promeut aussi le multilatéralisme à l'échelle globale. Et on a une politique étrangère européenne qui est globale. Donc on a des intérêts économiques. On a on veut promouvoir ce qu'on appelle la connectivité. On veut collaborer avec des organisations comme l'ASEAN parce que il y a des relations un peu spéciales entre des organisations régionales mondiales. Donc tout ça, ça fait partie d'une diplomatie ou d'une voie européenne un petit peu spécifique, je dirais. Est-ce qu'elle est vraiment autonome? Est-ce qu'elle va vraiment peser en termes de puissance par rapport aux partenaires, je dirais, qui sont des puissances politico-militaires dans l'espace Asie-Pacifique? C'est pas évident. Mais en tous les cas, il y a une voie propre quand même de l'Europe qui existe et qui reflète les compétences de l'Union européenne. Mais c'est clair qu'on n'est pas dans le terrain stratégique des rapports de force politico-militaires, où là, forcément, l'Europe, elle est au second plan.
C'est le soft power, c'est ça, Christian Lequen, finalement c'est un des atouts diplomatiques de la France, le fait de ne pas être dans, justement, ce hard power qui définirait, par exemple, des pays comme la Chine.
Ah non, c'est pas le soft power, c'est l'idée qu'on a une stratégie de diplomatie globale, mondiale, si vous voulez, de grande puissance, c'est ça l'idée. Et là, on est au cœur, avec ce que nous venons de dire, on est au cœur justement de la réflexion sur et de la controverse sur ce que doit être la politique étrangère de la France. Est-ce que la politique étrangère de la France doit être une adaptation à une politique qui serait politique occidentale, où on accepterait un leadership américain, ou est-ce qu'au contraire, on essaie de revendiquer plutôt une ligne plus autonome, et pour les France aujourd'hui, une ligne plus autonome, ça veut dire plus européenne. Mais ceci étant, pour ça, il faut des soutiens en Europe, et on n'en a pas beaucoup. Il ne faut pas oublier quand même que la plupart des pays européens sont sur la première ligne, qui consiste à dire essayons d'être aussi adaptés que possible à une position occidentale menée par les États-Unis d'Amérique, y compris nos amis allemands. Ils sont dans une position moins marquée que les pays d'Europe centrale et les pays baltes, mais quand même. Voilà. Donc là, on est au cœur de ce Que veut-on ?
Que veut-on ? Que peut-on ? Parce que c'est aussi parce qu'il n'y a pas de défense européenne qu'on en est là.
Il y a un problème. Voilà, c'est ce qu'on peut immédiatement opposer à ceux qui parlent d'une troisième voie. C'est une troisième voie, ok, mais avec quelles ressources ? Ça, il faut des ressources sur le plan militaire. Avec quels alliés européens ? C'est un point important. Mais on peut pas s'empêcher quand même, en tant que Français, de toujours mettre ça sur la table parce qu'on a une histoire aussi. Dans le fond, c'est le gaullisme, notre histoire.
Et voilà. Donc,
aujourd'hui, est-ce qu'on dépasse cette conception gaulliste qui consiste à dire nous sommes dans le camp occidental, mais nous revendiquons quand même de l'autonomie, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on essaie de jouer une carte plus pragmatique qui est l'adaptation au camp occidental, auquel cas, à mon avis, ce que nous avons intérêt à faire, c'est nous à être porteurs d'une redéfinition de la relation avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de la France à ce moment-là.
Michel Duclos, vous répondez à cette question, quelle relation avec les États-Unis ? Elle est essentielle.
Si vous voulez, le moment historique dans lequel nous vivons, c'est que les États-Unis sont moins intéressés par la domination de l'Europe. Parce que, évidemment, leurs soucis sont ailleurs, leur axe stratégique est ailleurs. Ils comptent sur les Européens pour assurer par eux-mêmes leur sécurité dans le pourtour de l'Europe, voire en Afrique ou au Proche-Orient. Donc la relation n'est plus celle d'un choix entre l'alignement ou l'autonomie absolue. Il y a aujourd'hui une marge de jeu.
Et puis surtout, ça va dans un sens, principalement. Quand même. C'est les Français qui sont davantage dépendants aux États-Unis que le contraire.
Oui, mais on parlait tout à l'heure de la stratégie Indo-Pacifique. Si vous lisez le document de l'Union européenne sur la stratégie Indo-Pacifique, comme d'habitude, c'est très ennuyeux, c'est très technique. Il y a
vous allez nous le rendre intéressant.
Pages, mais ça commence par un point, c'est que sur le plan commercial, c'est quand même l'Union européenne qui est le principal partenaire commercial de cette région. Ce n'est pas la Chine. En termes de vente d'armes, la France, c'est le second pays derrière les États-Unis dans la région. Donc, on ne peut pas dire qu'on est complètement dépourvu d'atouts, si vous voulez.
Bien sûr. Il y a des choses que vous n'avez pas dit, pardon.
Souvent, les Européens ne savent pas stratégiser les atouts qui sont les leurs, qui sont, pour moi, les atouts d'une puissance civile. C'est vrai que sur le plan de la défense, je ne pense pas que l'Europe puisse s'imposer si elle arrive déjà à faire face aux défis, aux risques de sa propre sécurité, au pourtour de l'Europe, ce serait déjà pas mal. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un rôle plus global à jouer.
Alors, on ne parle pas de l'Europe, on parle précisément de la France ce soir, mais c'est vrai que parmi les atouts, c'est étonnant qu'un de vous trois n'a signalé le fait quand même que la France dispose de l'atout de la dissuasion nucléaire, parmi l'un des 9 pays du monde à avoir ça, et que la France fasse partie. Oui, voilà, mais c'est important de le mentionner.
Oui, bien sûr.
Et puissance nucléaire, vous l'avez dit effectivement en amorce de cette émission, et que la France fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, actrice des décisions les plus importantes concernant le monde.
Ce soir, on est dans une heure de lucidité absolue et de confession. C'est capital pour la France d'avoir ces deux atouts qui sont un peu les bijoux de la couronne. Il ne faut pas qu'on s'endorme dessus. Parce que le Conseil de sécurité, il joue un rôle de moins en moins net.
C'est un autre débat, mais c'est vrai.
De moins en moins engagé, si vous voulez. Il est de moins en moins efficace. Et par ailleurs, l'arme nucléaire, c'est bien comme argument d'ultime raison. C'est pas un atout qu'on peut monnayer tous les jours, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça reste capital pour nous de refaire notre économie et d'avoir des alliés, d'abord en Europe, bien entendu.
Maxime Lefebvre, est-ce que vous avez le sentiment que la France s'endort sur ses lauriers, comme Michel Duclos vient de soulever ce point ?
Non, moi, je trouve au contraire que ce qui est frappant, c'est qu'on aurait pu penser qu'après la guerre froide, la position de la France se banaliserait, que on avait une domination américaine, et en fait la France a continué à être un pays qui compte dans la gestion des crises, dans les relations globales, dans son rayonnement culturel. C'est la première destination touristique mondiale, ça fait partie de ce soft power. Bon, il y a toujours cette volonté de peser, d'intervenir, d'être écouté, de prendre des initiatives. Alors on joue, et puis c'est aussi notre... Quand on parle des atouts, c'est la capacité aussi à jouer plusieurs registres. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est la France qui parle, c'est le président Emmanuel Macron. De temps en temps, on utilise le levier européen, et notamment avec les Allemands. De temps en temps, on fait du franco-américain. Voilà, on a aussi une capacité à jouer avec une certaine ductilité de ces différents registres. Donc, je trouve pas du tout que la France soit un pays déclinant, en réalité. Et puis, sur l'économie, on essaie de la moderniser, on essaie d'améliorer la compétitivité. On a plutôt des tendances, quand vous regardez, c'est la première destination d'investissement en Europe. Donc, il y a quand même des choses qui marchent. Mais c'est vrai que, bon, ça prend du temps parce il y a eu un moment, notamment quand on est rentré dans l'euro, où on s'est peut-être effectivement là reposé sur les lauriers. On n'a pas fait les efforts de compétitivité, par exemple, qu'a fait l'Allemagne. Donc voilà, mais moi je suis très confiant sur l'avenir de la France.
Christian Lequen, vous êtes confiant aussi sur l'avenir de la diplomatie française et de la France en général ?
Tous.
Écoutez,
ou est-ce que, encore une fois, hein, j'ai ouvert avec les revers Mali, Afghanistan. Est-ce que c'est l'augure à inquiéter ?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que je partage absolument ce qui vient d'être dit par Maxime sur le fait qu'il y a une vraie ambition stratégique française, au sens de la grande stratégie. Ça reste encore quelque chose qui fait partie, disons, du comportement français dans le monde. Et c'est suffisamment rare en Europe pour le souligner. Simplement, le problème de la France, c'est parfois le décalage entre cette ambition et les ressources, et ce que la France est véritablement. Et moi, je crois que là, il faut faire très très attention, parce que la crédibilité, elle passe aussi par là, c'est-à-dire d'annoncer des ambitions en ayant des moyens. Et je crois que la réforme de notre économie, c'est absolument fondamental. Là, vraiment, il faut qu'on soit bien meilleur, faut qu'on réussisse à améliorer notamment aussi nos indicateurs macroéconomiques. Hein. Ça, c'est fondamental.
Nos finances publiques.
Mais c'est très,
il y a
très...
le risque d'un glissement.
Mais là
que la France se croit plus beau qu'elle n'est dans les années qui viennent.
Mais là, on tombe sur un autre problème qui est qu'ensuite, c'est de la politique intérieure.
Oui.
Réformer les finances publiques en France, bonne chance. Hein, good luck. Hein, voilà. Et je pense qu'il y a d'autres, domaines aussi sur lesquels on devrait réfléchir. Notre politique culturelle, on a quand même sérieusement diminué les moyens de notre action à l'étranger. Moins 20% quand même pour le budget du ministère des Affaires étrangères. On a parfois des coquilles vides, des instituts français où on n'a plus de moyens pour travailler, etc. Donc tout ça, il faut y réfléchir quand même très sérieusement.
Donc il y a des points de politique intérieure qui peuvent mettre en danger, on va finir avec vous Michel Duclos, il reste une minute, qui peuvent mettre en danger justement l'avenir diplomatique français, ou en tout cas faire tomber la France de ce piédestal que vous soulignez tous les trois ce soir.
Oui, donc évidemment, comme les autres intervenants, je crois à l'avenir de la France, je crois à l'avenir de la diplomatie française. Mais il est probable que l'heure est venue de faire des choix, si on veut respecter l'adéquation des moyens et des ambitions. Car si on n'est pas capable de faire ces choix à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, alors c'est là que commenceraient les vraies difficultés pour un pays comme le nôtre.
Eh bien, merci Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur du livre « La France dans le bouleversement du monde » qui sortira le 13 octobre prochain. C'est déjà la fin de ce débat du jour. Maxime Lefebvre a participé à cette émission, diplomate, ancien ambassadeur. Merci à vous, professeur à l'ESCP Business School, auteur du « Que sais-je, la politique étrangère de la France ». Et merci Christian Lequen, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de diplomatie, auteur de « La puissance par l'image ». Merci à Florence Ponce qui était à la préparation de ce débat, Laurent Philippot à la réalisation. On parlait de la politique intérieure. Eh bien demain, nous évoquerons des questions de politique intérieure puisque nous poserons la question est-ce qu'il faut augmenter les salaires en France alors qu'une journée de mobilisation nationale interprofessionnelle a lieu demain mardi. Voilà, restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes, c'était RFI Soir. Pour leur sixième édition,